Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous poursuivons aujourd'hui le parcours que nous avions commencé la semaine dernière sur le thème de la terre dans la Bible. Nous avions commencé à parcourir le grand récit biblique en nous intéressant au Pentateuque, essentiellement, c'est-à-dire effectivement les différents moments où la terre est évoquée, promise, trouvée. Et nous arrivons maintenant à la suite donc de ce parcours en abordant la question du dévoilement du péché contre la terre avec les prophètes. Dans la réflexion sur la terre, les prophètes jouent en effet un rôle essentiel. Il s'exprime lorsque la terre devient une terre de péché au lieu de demeurer une terre de bénédiction. Il cherche à réveiller la conscience des puissants, installés dans la terre promise, mais oublieux des engagements que cela implique. Pourriez-vous, Père Alain, nous donner quelques exemples ?
Oui, je crois que si on veut comprendre effectivement la façon dont Israël va affronter les réalités de la vie, on ne peut pas faire l'économie des prophètes. Le prophète, c'est celui qui fait passer on pourrait dire, du général au particulier. Tout ce qui est général, c'est facile, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ce qui est particulier, c'est quand on dit, tu n'as pas aimé le Seigneur ton Dieu. Or, qui est capable de faire ce passage du général au particulier ? C'est le prophète. Le prophète, c'est celui qui vient montrer sur le chemin du peuple d'Israël, ses infidélités. Et alors, je vais vous donner, parce que ça serait trop long, mais le prophète est indispensable, quelques exemples que j'ai puisés un peu dans plusieurs prophètes. Ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé ces textes, c'est la fréquence du pronom personnel « mon peuple ». Je vous donne quelques exemples. Jésus fait très souvent, enfin, Dieu dans la bouche des prophètes, fait fréquemment usage de la première personne du singulier. Je ne vais pas vous donner les citations, ceux qui voudraient les trouveront dans mon cahier évangile. Mon sanctuaire, mon trésor, ma maison, mon troupeau, mon pays. Alors là, c'est une expression qui revient souvent, c'est mon pays. Et vous vous rappelez, quand on lit le chapitre, l'Exode au début, « Va pour le pays, je te sauverai pour mon pays. » C'est mon pays, c'est le pays de Dieu. Et puis, « Joël, ma montagne sainte, mon domaine, ma colline, ma demeure. » Et vous pourrez continuer l'énumération. Véritablement, Dieu considère cette terre comme sa terre et qui est violée justement par les infidélités d'Israël, parce que c'est une terre pour l'Alliance. Je crois que c'est ça qui est derrière l'enjeu, terre pour l'Alliance. Et Israël a conscience, et c'est pour ça peut-être qu'on est affronté un peu à cette réalité aujourd'hui, même politiquement, on va en parler peut-être un peu à la fin, mais Israël n'est pas une terre ordinaire, c'est une terre qui a vocation à être une terre pour l'Alliance, et Israël aujourd'hui porte avec ses possibilités ce poids extraordinaire qui est une chance, mais qui est aussi une exigence dans la fidélité.
Alors, il y a trois grands prophètes que vous évoquez, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe. Est-ce que vous pourriez, pour chacun d'entre eux, nous illustrer un petit peu leur démarche par rapport à la terre, justement ?
Les deux, Jérémie et Ézéchiel, c'est les plus récents. Hein. C'est eux qui ont vécu l'exil, donc Isaïe aussi, à travers ses relectures, les premiers, deuxième, troisième Isaïe. Mais oui, Jérémie en particulier, mais je vais vous donner quelques citations qui peuvent donner envie aux lecteurs d'aller, aux auditeurs d'aller jusque-là. Ce petit passage, par exemple, de Jérémie, « Tu as profané ma terre par ton inconduite, ton immoralité, si bien que par sa légèreté et son inconduite, la terre elle-même est profanée. Elle commet l'adultère avec la pierre et le bois. » Vous voyez, presque la terre qui est personnifiée, ou encore « Accepte la leçon, Jérusalem, sinon je me désolidarise d'avec toi et je te transforme en désolation, en une terre inhabitée. Terre, écoute-moi. » Vous voyez, la terre personnalisée. « Terre, écoute-moi. Je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses machinations. Ils ne font pas attention à mes paroles, à mes directives. Ils les méprisent. » Ça, c'est le prophète Jérémie. Bon, il y en aurait certainement beaucoup d'autres à développer. Et puis, vous avez ensuite Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, c'est très fort également dans les paroles d'Ézéchiel. C'est-à-dire, je vous lis ce petit passage. « Ainsi parle le Seigneur. » Non, ça c'est Amos. Enfin bon, il y en a plusieurs. Je prends Amos. « Ainsi parle le Seigneur, par trois crimes de Juda, et pour quatre, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont rejeté la loi du Seigneur et n'ont pas observé ses décrets, parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales, parce qu'ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre, et qu'ils font dévier la route des humbles. » Donc vous voyez, la terre, elle est terre de fidélité, et terre, oui, sur laquelle Israël est invité à vivre la fidélité. Alors Ézéchiel, on pourrait citer le procès qui est fait contre Dieu. « J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. Il donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre. Mais si tu n'es pas fidèle, tu n'auras pas cette pluie. » Cette idée que la fidélité arrive à condition de suivre le respect de la Torah. Et on pourrait citer, entre autres, le chapitre 5 d'Isaïe, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure. C'est très beau, vous le connaissez évidemment bien, ce texte. On pourrait dire, on le connaît presque par cœur. Hein. C'est un texte qui rappelle comment Isaïe, un jour, est venu rejoindre son peuple, qui était en train de ramasser le vin. C'était l'époque des récoltes. Et là, tout à coup, il leur raconte, mon ami avait une vigne à qui il a accordé beaucoup de soins. Vous connaissez ce passage. Et tout à coup, ça bascule. Vous pouvez lire peut-être à ma place, vous avez le texte sous les yeux, la fin du texte, ça montre bien ce que symbolisait la vigne.
« Ce jour-là, la vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. » De temps en temps, je l'irrigue pour qu'on ne fasse pas de mal. Nuit et jour, je la garde. À l'avenir, Jacob s'enracinera. Israël bourgeonnera et fleurira. La face du monde se couvrira de récolte.
Voilà, on sent bien, si vous voulez, derrière ces textes, alors qu'ils sont situés historiquement de manière différente, mais combien la terre est prégnante, au fond, dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, il y a toujours un jeu subtil entre terre et royaume. On ne sait jamais très bien si on parle du royaume, si on parle de la terre. Et la terre d'Israël, c'est une terre, au fond, qui a vocation à être le lieu du royaume. Et dans la tradition juive, c'est à Jérusalem que Dieu viendra pour rassembler les peuples sur la terre d'Israël. Donc, vous voyez, il y a toute une dynamique à la fois mystique, spirituelle autour de Jérusalem. Vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque j'étais à Jérusalem, je me souviens, j'avais lu un poème d'un écrivain juif qui disait « La différence entre les villes d'Europe et les villes de Jérusalem, c'est que dans les villes d'Europe, il y a de la pollution, et Dieu sait que si c'est vrai, alors qu'à Jérusalem est recouverte des prières de Dieu qui planent sur le monde. » Alors évidemment, on a idéalisé cette terre, c'est une femme pratiquement, elle a été représentée comme une femme, il y a une passion, et tout ça évidemment, on peut dire, rebondit sur l'Israël d'aujourd'hui, qui vit cette passion, mais parfois avec des excès, sur lesquels peut-être on va pouvoir s'attarder un petit peu.
Nous ne pouvons que conseiller à nos auditeurs de se replonger dans les prophètes, parce qu'effectivement, ces trois prophètes que vous avez évoqués, puis également Osée, c'est magnifique à lire et à relire. Alors, puisqu'on est dans cette veine un petit peu poétique des choses, finalement, il y a également les psaumes, qui montre aussi que la terre est omniprésente dans la méditation et la prière du peuple d'Israël, et puis aussi des chrétiens par la suite. Ils proclament la louange et les acclamations lorsque la terre est donnée ou retrouvée, quand elle porte ses fruits. Ils expriment des lamentations, des cris de détresse, des imprécations lorsqu'elle est dévastée, occupée, perdue. Nos auditeurs ont certainement de très bons exemples en mémoire, et nous nous contenterons aujourd'hui de citer un petit extrait du psaume 137 qui dit magnifiquement bien l'amour d'un exilé pour sa terre. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au peuple lié d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils nous demandèrent, nos geôliers, des cantiques, nos ravisseurs, de la joie. « Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. » Comment chanterions-nous un cantique de Yahvé sur une terre étrangère ? Après le temps des prophètes, après le temps de l'exil, nous arrivons dans la période évangélique. Et là, Jésus est un fils de la terre d'Israël. Il y est né, il y a grandi, il a reçu sa formation humaine et religieuse. Comme prédicateur itinérant, il l'a sillonné de long en large. Comment sa terre natale, ses paysages, ses métiers, ses traditions ont-ils marqué son enseignement ?
Alors évidemment, il faut s'attarder sur cette réalité de la terre. On peut faire une comparaison en commençant. Il y a trois religions qui revendiquent quelque chose de la terre d'Israël. Vous avez l'islam, pour aller dans l'ordre logique, chronologique, Israël, le premier à revendiquer Jérusalem, mais au-delà de Jérusalem, toute la Terre Sainte. Vous avez ensuite les chrétiens, Jésus, vous évoquez, sur lequel je vais revenir. Et puis vous avez l'islam beaucoup plus tard. Trois religions, on pourrait dire trois responsables religieux qui revendiquent une terre. Le paradoxe, alors je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais ça m'a toujours frappé quand j'étais en Israël. Il n'y en a qu'un des trois qui n'a pas sillonné la terre lui-même. Plutôt, il n'y en a qu'un qui l'a sillonné, pardon, c'est Jésus. Jésus a sillonné la terre, vous l'avez dit. Les deux autres, Moïse, il a été arrêté au sommet de la montagne, il n'est pas
au
descendu. Mont Nebo. Il a vu de loin, mais il n'est pas descendu. Alors, du côté de l'islam, la légende voudrait que le fondateur de l'islam ait été lui aussi jusqu'au ciel, emporté par des anges, ou enfin un texte assez mystérieux qui leur a été porté, mais on n'a pas le sentiment qu'il a quand même sillonné physiquement cette terre d'Israël. Donc, vous voyez, il n'y a que le Christ. Or, le Christ, par rapport aux deux religions, est celui qui nous a demandé peut-être le plus de détachement par rapport à cette terre-là, pas par rapport à la terre, par rapport à cette terre. C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez le passage, ou peut-être le plus prégnant dans la Bible, l'heure vient et ce n'est plus, et c'est maintenant, où ce n'est plus ni à Jérusalem, ni en Samarie, mais en esprit et en vérité que vous vénérerez votre Dieu. Ça n'est plus en réalité sur une terre concrète, mais désormais toutes les terres ont vocation à être des terres saintes. Alors, vous imaginez, il faudra sans doute qu'on y revienne une autre fois, mais ce débat qu'il y a aujourd'hui autour de la terre d'Israël, qui est permanent, hein, et qui s'est multiplié de, on pourrait dire, de siècle en siècle, depuis la chute de Jérusalem, et même avant, cette ville, ce pays est un pays disputé, c'est un des pays que plusieurs voudraient s'approprier. Comment sortir de l'impasse? Vous avez vu à travers la politique aujourd'hui, le président Trump a fait des propositions qui ont été rejetées quand même par la majorité des gens, y compris en Israël. Je suis frappé de voir, je lis beaucoup la littérature d'Israël, les journaux israéliens, je suis étonné de voir que parmi les Israéliens, il y en a beaucoup qui sont opposés à la politique de Trump. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Ça échappe à beaucoup. C'est que cette terre n'est pas une terre normale. C'est une terre qui a vocation à être une terre ouverte. Et les propositions qui sont faites aujourd'hui ne sont pas toujours dans la bonne direction. Moi, j'ai entendu beaucoup d'autorités juives me dire qu'en 87, à la guerre des six jours, qui a amené l'annexion au fond des territoires et de Jérusalem, beaucoup me disaient « ça a été la fin d'un monde ». C'est-à-dire, on a commis là l'irréparable. Et en particulier, un des grands philosophes juifs qui est décédé il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Leibowitz, une grande figure de la tradition juive, très croyant, hein, très religieux, a dit « ce jour-là, on a mis le ver dans le fruit ». C'est-à-dire, on a fait l'irréparable. Et le fait d'avoir voulu prendre Jérusalem comme nous l'avons fait, on a ouvert un chemin douloureux qui n'est pas prêt de se fermer. Alors, aujourd'hui, on est en plein cœur de ce phénomène avec les excès du président Trump. Et c'est révélateur de voir quand même que la plupart des pays refusent de suivre, et même en Israël, parmi les gens ouverts, beaucoup refusent d'annexer Jérusalem en oubliant que c'est un pays qui est pour deux nations et qui sont habitées à cohabiter l'une à côté de l'autre, à partager beaucoup de choses. La paix, c'est un signe important pour la terre des hommes, je crois, hein. Et on a un chemin à faire encore aujourd'hui. On peut espérer, mais nous en sommes encore loin.
Est-ce que justement la relecture des Écritures par toutes les parties prenantes ne serait pas un moyen de reprendre conscience un peu de ces réalités, de cette terre, vous le dites bien dans votre ouvrage, qui a été disputée déjà depuis toujours, finalement, et puis à différentes époques, des solutions, des compromis ont été trouvés.
C'est vrai, mais le paradoxe, si vous voulez, c'est que, si je prends les États-Unis, par exemple, les ultra-religieux chrétiens sont ceux qui sont derrière Trump. Les juifs américains, dans leur majorité, sont contre Trump dans ces options. Donc ça veut dire que, et en Israël c'est pareil, vous avez des juifs de toutes sortes, certains qui sont pour, certains qui sont contre, mais je crois que la vraie solution, est-ce qu'elle viendra un jour? On peut se demander, hein, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'un côté Israël puissant, fort, respectable. Je reconnais par exemple que il y a eu une petite faute qui a été commise par Bayard Press dans une de ses revues, lorsqu'ils ont laissé entendre qu'Israël était un État différent des autres. Oui, il peut être reconnu comme un État différent parce qu'il a été reconnu en 1948 par toutes les institutions européennes et mondiales. Donc, on ne peut pas mettre en doute son existence. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tous les droits sur les voisins qui sont autour de lui. Et là, il y a un respect à accepter, une reconnaissance au fond. Alors, c'est plus nécessairement des lectures religieuses. Même s'ils sont les religieux, parfois les plus extrémistes, comme aux États-Unis, qui sont les plus proches des solutions les plus extrêmes aussi. Beaucoup de juifs en Israël, qui ne sont pas croyants, voudraient qu'il y ait deux États, l'un à côté de l'autre. Jérusalem avec son identité, avec son caractère propre, Jérusalem juive, et de l'autre côté, la Jérusalem musulmane, avec aussi ses caractéristiques et sa fidélité.
J'ai lu quelque part ces jours-ci que certains fondamentalistes chrétiens américains disaient que le Christ ne pourrait pas revenir tout le temps que Jérusalem ne serait pas réunifiée.
Oui, tout ça, ce sont des sottises, si vous voulez. Je crois que la politique est trop sérieuse pour la laisser entre les mains des fondamentalistes. Je crois qu'il y a des chemins, il y a des dialogues, il y a des routes à ouvrir. Et je crois que certains veulent les ouvrir, et il ne faut pas désespérer. Mais la terre d'Israël, c'est une terre à part, une terre unique, on pourrait dire, symbolique aussi de ce que devrait être un peu toutes les terres, ce que malheureusement, elle n'est pas toujours. On le voit bien. Elle est petite, elle est encerclée par beaucoup de pays qui ne lui sont pas favorables. Elle est puissante, mais il faudra sans doute un jour trouver des solutions pour sortir de cette impasse.
Voilà, eh bien, il faut peut-être nourrir l'espérance, et peut-être que la lecture des Écritures est un moyen de savoir d'où on vient, d'où viennent ces peuples, d'où viennent ces pays, d'où viennent cette terre d'Israël, que les Romains appelaient la Palestine. Et nous voilà au terme de cette deuxième émission consacrée à la terre dans la Bible. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire et nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances et puis votre expérience de cette terre sainte, de cette terre d'Israël. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.